Vous écoutez, on lit pour vous.
Et si on laissait les femmes gérer leur sein? Un texte de Philippe Mercure, paru le 21 novembre 2024 dans la presse. On va le répéter parce qu'on dirait que c'est nécessaire. Les femmes peuvent choisir ce qu'elles veulent faire et ne pas faire de leur corps. Ça inclut le choix de ne pas allaiter. Si ça vous semble évident, ce n'est malheureusement pas le cas partout dans notre réseau de la santé. Anne-Marie Beauregard et Catherine Fizette peuvent en témoigner. J'ai rencontré les deux jeunes mamans sur la terrasse d'un café de Saint-Lambert. Elles voulaient me parler des pressions qu'elles ont subies pour allaiter. Le sujet n'est pas nouveau, c'est vrai, mais les problèmes demeurent, peut-être même qu'ils s'aggravent. On apprenait récemment que l'allaitement gagne en popularité dans la province, mais qu'il n'est pas encore assez fréquent aux yeux du ministère de la Santé et des Services sociaux. En parallèle, de nombreux CLSC et hôpitaux québécois obtiennent la certification « Amis des bébés » de l'Organisation mondiale de la santé. Pour ça, ils doivent remplir des quotas, dont s'assurer que 75% des mères allaitent de façon exclusive entre leurs murs. Anne-Marie Beauregard et Catherine Fizette sont convaincues que cela a contribué à mettre de la pression sur elles. Notre objectif n'est pas de faire le procès de l'allaitement, précise d'emblée Anne-Marie Beauregard. On sait qu'il y a des preuves scientifiquement bien étoffées de ses nombreux avantages. Les deux femmes souhaitaient d'ailleurs allaiter avant d'avoir leur bébé. Mais pas sous pression. Et pas à tout prix. Anne-Marie Beauregard est communicatrice scientifique. Dès ses cours prénataux, elle juge que l'information qu'on lui présente est tendancieuse. Cancer, maladie de Crohn, mort subite du nourrisson, on insiste à grands traits sur les risques de ne pas allaiter. Mais jamais ces risques ne sont quantifiés ni mis en perspective. Dans toute l'information qui est donnée, tu sens une direction. Le ton est culpabilisant. Le message est hyper caricatural, basé sur la peur, estime-t-elle. J'ai soumis le document du cours, produit par le CI3S de la Montérégie Centre, au pédiatre Jean-François Chicoine du CHU Sainte-Justine. Il le juge médiocre en termes de communication et, poursuit-il, on y transforme la prévention en dogme et la promotion en exercice moral. La transmission d'un message par la peur est pourtant une vieille manière de faire. Avec deux collègues, le docteur Chicoine s'est opposé avec succès en 2012 à ce que le CHU Sainte-Justine obtienne la certification « Amis des bébés ». Les trois spécialistes dénonçaient le dogmatisme et l'inflexibilité d'une approche qui, selon eux, laisse peu de place à la tolérance et au jugement. Pour Anne-Marie Beauregard, ça ne s'améliore malheureusement pas après la naissance de son petit Francis en mai 2024. Dans ses trois premiers jours de vie, mon fils pleurait énormément, raconte-t-elle. À l'hôpital, on insiste pour qu'Anne-Marie allaite plus souvent. J'étais tout le temps en train d'allaiter, parfois dans des états de grande fatigue, dit-elle. Pour ajouter à son épuisement, son conjoint et elle contractent un virus à l'hôpital. Une fois à la maison, après trois jours de pleurs, Anne-Marie se résout à donner un biberon de lait maternisé Onni à son bébé. Il l'a englouti d'un trait avant de s'endormir. On a compris qu'il pleurait de faim tout ce temps. Nous avons énormément culpabilisé de l'avoir privé inutilement, raconte la jeune mère. Elle se demande pourquoi personne n'a réalisé que son bébé buvait trop peu à l'hôpital et pourquoi l'option de la formule et du biberon n'a jamais été discutée. Je reste une belle case qui dit que j'ai allaité exclusivement pendant que j'étais à l'hôpital. J'ai rempli le quota, laisse-t-elle tomber avec une certaine colère, disant sortir de son parcours, un peu traumatisé et très amer. À la naissance de son premier enfant, Catherine Fizette éprouve elle aussi des difficultés d'allaitement. La machine se met en branle pour la convaincre de poursuivre, et pas à peu près. On procède à une frénotomie, coupure du frein de la langue chez le bébé pour l'aider à boire au sein. On suggère à Mme Fizette de changer sa méthode de contraception. Elle prend une pilule qui permet pourtant la lactation. On lui fait prendre des suppléments alimentaires. On pratique une deuxième frénotomie chez le bébé. On suggère à la maman de se faire prescrire de la dompéridone, un médicament contre les problèmes gastriques qui a comme effet secondaire de favoriser la lactation, mais qui peut aussi causer des problèmes cardiaques. Catherine Fizet se souvient. « Je me disais, waouh, c'est intense l'allaitement. » Mais j'étais dans un tourbillon hormonal, je n'avais pas la distance pour remettre ça en question. À la naissance de son deuxième enfant, Catherine Fizette a fixé ses limites. Mais c'est à ce moment qu'elle dit avoir essuyé les commentaires les plus dénigrants. Elle se souvient d'une intervenante du CLSC qui l'appelle à la maison alors qu'elle n'a rien demandé à personne. « En tout cas, j'espère que vous allez réussir votre allaitement mieux que la dernière fois, » lui lance-t-on. Catherine sait qu'elle produit peu de lait. Elle souhaite également répartir la corvée de nourrir le bébé avec son conjoint, un aspect complètement évacué du discours sur l'allaitement exclusif, je le souligne. Elle choisit donc l'allaitement mixte. J'avais le désir de préserver une forme d'espace qui m'appartienne. Je n'ai jamais voulu être accroché à un fourneau. Je ne voulais pas non plus être accroché à mon bébé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, explique-t-elle. Ce choix de refuser l'allaitement exclusif, j'en ai payé le prix parce que j'ai été jugée, estime-t-elle. Elle n'hésite pas à parler aujourd'hui d'une forme d'instrumentalisation du corps de la femme. On vient me dire, « Toi, tu es des seins qui donnent du lait pendant 6 mois », illustre-t-elle. Le ministère de la Santé et des Services sociaux assure que les pratiques entourant l'initiative des Amis des bébés ne visent pas à mettre de la pression pour allaiter, mais plutôt à assurer le soutien des mères et de leurs conjoints et conjointes. Les propos d'Anne-Marie Beauregard et de Catherine Fizette montrent pourtant que des femmes se sentent bousculées par des professionnels qui devraient plutôt les appuyer dans ce moment si spécial et bouleversant qu'est la naissance d'un enfant. Je ne doute pas que les intervenants qui poussent l'allaitement sont animés de bonnes intentions. Mais, à force de trop vouloir le bien, on fait parfois du tort. Les femmes doivent être informées des bienfaits de l'allaitement. On peut certainement les encourager à allaiter. Mais il arrive un moment où il faut accepter le choix des mères sans les juger. Ce sont leurs seins, leurs bébés. Nombre d'établissements qui possèdent la certification Amis des bébés au Québec, 8 maisons de naissance, 5 hôpitaux, 80 CLSC. C'était « Et si on laissait les femmes gérer leurs seins ?» un texte de Philippe Mercure, paru le 21 novembre 2024 dans La Presse.
La Fondation Laurent Duvernay-Tardif veut percer dans Charlevoix. Un texte de Victor Carré, paru le 9 novembre 2024 dans Le Charlevoisien. La Fondation Laurent Duvernay-Tardif, FDLT, qui porte le nom de l'ancien footballeur et actuel résident en médecine, souhaite développer ses différentes offres partout au Québec, dont Charlevoix. L'organisation est déjà présente dans 8 régions au Québec et elle ne veut pas s'arrêter là. Citation : Si des écoles de Charlevoix, des camps de jour et des entrepreneurs sont prêts à aider financièrement, on va sérieusement évaluer la demande. Fin de citation, lance la directrice générale de la FLDT, Audrey McKinnon. La Fondation propose notamment un programme parascolaire, la 6e période, qui combine art et sport pour les jeunes du 3e cycle du primaire et qui favorise la réussite éducative. Citation. C'est une période charnière de leur vie et pour vivre des expériences. Fin de citation, ajoute Mme McKinnon. Elle a fait, depuis tout récemment, équipe avec la Fondation Tremplin Santé pour développer des activités en période estivale, plus précisément pour l'univers des camps de jour. Citation. On offre entre autres des jeux et des formations adaptées. Fin de citation, explique la directrice générale de la Fondation. Grandes ambitions. Récemment, la Fondation a lancé sa première campagne majeure de financement visant à amasser 10 millions de dollars d'ici l'an 2027. À terme, la campagne prévoit déployer son programme parascolaire dans plus de 14 500 écoles québécoises, en plus d'enrichir l'été de milliers d'enfants à travers les 800 camps de jour Tremplin Santé. Citation. C'est un objectif qui est ambitieux, tout comme notre défi. On veut faire la différence auprès des jeunes. Fin de citation, estime la directrice générale de la FDLT. Jusqu'à présent, environ 60 % de l'objectif financier est atteint grâce à des dons d'entreprises et de philanthropes. Citation. Bientôt, on va faire appel à la population pour recueillir des dons dans le cadre de cette campagne. Fin de citation, complète Mme McKinnon. Il est possible d'en faire sur le site Web de l'organisation. C'était « La Fondation Laurent Duvernay-Tardif veut percer dans Charlevoix », un texte de Victor Carré, paru le 9 novembre 2024 dans Le Charlevoisien.
Le poids des Américano-Haïtiens haïtiennes dans l'économie des États-Unis. Un texte de la rédaction paru le 31 octobre 2024 dans Alter Presse. Le directeur de la recherche sur la race et la justice économique au Centre de recherche économique et politique, CEPR, Al Gernon Austin, souligne le poids des Américaines et Américains d'origine haïtienne dans l'économie des États-Unis d'Amérique, dans un document dont a pris connaissance l'agence en ligne Alter Presse. À travers une fiche d'information publiée à l'approche de l'élection présidentielle américaine du mardi 5 novembre 2024, le CEPR présente un aperçu rapide du statut socio-économique des 1,2 million de personnes aux États-Unis ayant une identité haïtienne. Concentration des Américano-Haïtiens haïtiennes dans la santé, la vente au détail, l'éducation et les services sociaux aux États-Unis. Très diversifiés, les Américaines et Américains d'origine haïtienne, dont près de la moitié d'entre eux vivent en Floride, travaillent dans tous les grands secteurs d'activité, avec une forte concentration dans la santé. 21,3% des Américaines et Américains d'origine haïtienne travaillent dans la santé, précise le CEPR. Beaucoup d'entre elles et d'entre eux sont des infirmières et infirmiers, des aides-soignantes et aides-soignants, des travailleuses hospitalières et travailleurs hospitaliers. 18,7% des Américaines et Américains d'origine haïtienne œuvrent dans la vente au détail, au sens large, comme caissières et caissiers, cuisinières et cuisiniers, commis et commis au stock, ainsi que dans un large éventail d'autres emplois, ajoute le Centre de recherche économique et politique. L'éducation et les services sociaux est la troisième plus grande catégorie d'industrie pour les Américaines et Américains d'origine haïtienne. 15,3% d'entre elles et d'entre eux sont employés dans ce secteur, notamment comme enseignantes et enseignants, assistantes et assistants d'enseignantes-enseignants. En plus de fournir des soins dans les hôpitaux et les établissements de soins de santé, les Américaines et Américains d'origine haïtienne travaillent aussi en tant qu'aides-soignantes et aides-soignants à domicile. Appel à un traitement rapide des permis de travail pour les migrantes et migrants haïtiens-haïtiennes. L'organisation American Immigration Council s'est jointe à plus de 100 organisations commerciales, dont des chambres de commerce et des associations professionnelles des États-Unis, pour demander à l'administration de Joseph Robinette, dit Joe Biden, de s'attaquer au retard dans le traitement des permis de travail, dans une lettre en date du vendredi 25 octobre 2024. Elle exhorte l'administration Biden à donner la priorité au traitement des demandes initiales et de renouvellement de permis de travail. En éliminant les arriérés de permis de travail et en offrant un accès stable aux permis de travail, davantage de travailleuses et travailleurs peuvent se rendre au travail et donner aux propriétaires d'entreprises l'assurance que leur main-d'œuvre pourra continuer à contribuer pendant des années à venir, lit-on dans la lettre. Le retour à un meilleur équilibre du marché du travail est en grande partie dû au retour de l'immigration à des niveaux plus typiques de l'ère pré-pandémique, affirme le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. L'augmentation de l'immigration fera gonfler l'économie américaine de 7 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie et réduira la dette nationale américaine de 900 milliards de dollars, estime le Congressional Budget Office, organisme non partisan. Cette lettre a été rédigée en partenariat avec le Refugee Advocacy Lab et a été publiée parallèlement à un mouvement croissant à travers le pays, mené par des groupes tels que l'Asylum Seeker Advocacy Project et l'American Immigration Lawyers Association, appelant à des solutions administratives pour remédier à l'arriéré des permis de travail. 60 % des natives et natifs d'Haïti qui émigrent aux États-Unis sont nés en Haïti, selon les données fournies par le Centre de recherche économique et politique. Le reste de la population se réclamant d'une ascendance haïtienne est née aux États-Unis. Un peu moins de 2 % de ces migrantes et migrants sont nés dans un autre pays qu'Haïti ou les États-Unis. Une mobilité sociale ascendante intergénérationnelle. Le Centre de recherche économique et politique note une mobilité sociale ascendante intergénérationnelle des Américaines et Américains d'origine haïtienne. Les Américaines et Américains d'origine haïtienne, nés aux États-Unis, ont un niveau d'éducation et des revenus plus élevés que la population née en Haïti, fait-il remarquer. La part de la population née aux États-Unis, titulaire d'une licence ou d'un diplôme supérieur, est plus de 2 fois supérieure à celle de la population née en Haïti, avance-t-il. Près des 2/5, 37,6% des Haïtiennes et Haïtiens nés en Haïti ont de faibles revenus, mais moins d'un tiers, 29,9% des Américaines et Américains nés aux États-Unis en ont. Environ 1/5, 18,4% des Haïtiennes et Haïtiens nés en Haïti ont des revenus élevés, mais plus d'un quart, 26,9% des Américaines et Américains nés aux États-Unis ont des revenus élevés. Les Américaines et Américains d'origine haïtienne ont beaucoup en commun avec les autres communautés d'immigrantes et d'immigrants aux États-Unis, malgré la rhétorique politique troublante et dangereuse qui cible les communautés de Springfield, argue le directeur de la recherche sur la race et la justice économique au Centre de recherche économique et politique. Les migrantes et migrants haïtiens vivant à Springfield, dans l'Ohio, sont accusés par des officiels américains et l'extrême droite aux États-Unis d'Amérique d'avoir volé et consommé des chats domestiques et des canards. Ces allégations fausses et incendiaires ont suscité de graves inquiétudes en matière de sécurité publique, notamment des menaces dirigées contre les écoles et les entreprises locales, et des débats dans les médias nationaux sur l'impact économique des immigrantes et immigrants nouvellement arrivés aux États-Unis, regrette Algernon Austin. Ces propos et idées nuisibles, racistes et xénophobes mettent en danger la vie de plusieurs milliers de migrantes et migrants haïtiens vivant à Springfield, dans l'Ohio, a prévenu la plateforme Groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, GARR, dans une note d'avertissement le 12 septembre 2024. C'était le poids des Américano-Haïtiens et Haïtiennes dans l'économie des États-Unis. Un texte de la rédaction paru le 31 octobre 2024 dans Alter Press.
Faire des pièces avec des scènes. Un texte de Marie-Ève Fournier paru le 16 novembre 2024 dans La Presse.
Il fut une époque où l'expression « c'est avec des scènes qu'on fait des pièces » était répétée aux enfants comme une vérité incontournable de la vie pour les convaincre d'être raisonnables. Personne ne remettait cette évidence en doute. Il faut dire qu'avec un seul dollar, jusqu'à la fin des années 1970, on pouvait se payer un repas, ce qui exacerbait sans doute la motivation. Même si l'inflation ne nous permet plus d'aller bien loin avec un huard, le principe selon lequel l'accumulation de petites économies finit par avoir un impact significatif demeure vrai. L'exemple le plus souvent utilisé pour en faire la démonstration est celui du latte, qui ne coûte que 5,69 par matin chez Starbucks avant pour boire. Si cet argent était placé à 5% d'intérêt dans un CELI, ce dernier contiendrait plus de 50 000 $ au bout de deux décennies. Le petit problème avec cet exemple est qu'il vise une boisson délicieuse dont la plupart des travailleurs ne sauraient se passer pour être éveillés, productifs et heureux. En plus, l'arrêt au café du coin représente souvent un moment précieux de socialisation, de détente ou de pause nécessaire pour la santé mentale. Pour ces deux raisons, le grand café filtre et le petit cappuccino quotidien sont ancrés dans les habitudes et difficiles à éliminer. La bonne nouvelle est qu'il existe mille et une autres façons de faire des économies de bout de chandelle sans souffrir le moindrement, sans même s'en rendre compte. Pour ceux qui manquent d'inspiration, mais qui tentent d'économiser davantage, l'infolettre « Dollar et Cent » de l'actualité a eu la bonne idée de demander à ses lecteurs de dévoiler leurs habitudes de gratte-ciel les plus astucieuses. Le résultat est fascinant. À sa lecture, on ne peut s'empêcher de sourire. On se dit que certains gestes vont de soi, et puis on se demande si nos voisins, nos collègues de travail, font comme nous, si on oserait aborder le sujet avec eux. On analyse notre quotidien, ce qu'on jette, ce qu'on achète. Assez vite, on reconnaît quelques habitudes de nos parents ou de nos grands-parents. Dans la plupart des cas, on se dit que l'idée n'est pas mauvaise, mais exigerait trop de temps ou d'énergie. On s'incline alors devant la créativité et la discipline. Bref, ça fait réfléchir. Autant du point de vue des finances personnelles que de l'environnement et de la consommation. En tout, le journaliste Marc-André Sabourin a choisi, sans jugement, précise-t-il, 120 astuces qui touchent tant les produits de nettoyage que l'alimentation, l'énergie, les emballages, l'hygiène personnelle et d'autres facettes de nos vies. Adoptez celles qui vous conviennent et laissez le reste de côté, écrit l'auteur, persuadé que tout le monde pourrait adopter quelques nouvelles habitudes. Tout est une question d'organisation et d'habitude. En matière d'emballage, on peut conserver les sacs de lait ou les sacs de tortillas avec des fermetures hermétiques pour apporter des sandwichs au bureau ou à l'école. Cela évite l'achat de sacs Ziploc. Les sacs à fruits sont parfaits pour ramasser les excréments de pitou. Le papier protégeant la livre de beurre est pratique pour graisser les moules à gâteau. Les lames de rasoir coûtent cher. Un certain Claude assure que si on les frotte sur des jeans dans le sens inverse du rasage, leur durée de vie s'allonge de plusieurs semaines. En éventrant les tubes de crème et de dentifrice, on en trouve toujours assez pour encore quelques jours. Les chaussettes orphelines enfilées sur le balai Swiffer ramasseraient bien la poussière. Les pains de savon durent plus longtemps si vous les déballez à l'achat et les laissez sécher avant de les utiliser. Pour nettoyer les cheveux, le shampoing peut être dilué dans 10 volumes d'eau et, dans son état normal, il lave bien les vêtements délicats à la main et à moindre coût, à condition de choisir le moins cher de la pharmacie. Pour se nourrir à moindre coût, on peut concocter du caramel avec ses cœurs de pomme. Il est possible de geler les fines herbes avant qu'elles ne pourrissent. Que faire des fonds de boîtes de céréales devenus moins frais? Les ajouter à une croustade ou, moulus, à son mélange de crêpes. Les pieds de brocoli se transforment même en délicieux cornichons, semble-t-il. Parmi les plus motivés se trouve Martin, qui n'achète plus de mouchoirs. Il utilise plutôt les lingettes jetables qu'il nettoie dans sa laveuse. Il y a Lisette, astucieuse récupératrice au printemps, du gravier abrasif étendu par sa ville dans les rues. L'hiver suivant, elle l'utilise dans son stationnement. Au bout d'une vie, on épargne combien en faisant attention aux petites choses? Aucune idée. Mais c'est avec des dollars qu'on fait des milliers de dollars grâce à la magie des intérêts composés. Comme l'a déjà expliqué mon collègue Nicolas Bérubé, la règle du 752 permet d'avoir facilement une idée de ce que représente une dépense récurrente au bout de 10 ans. Il suffit de multiplier le montant par 752. Le résultat suppose un rendement net de frais de 7 %. Pour plus de flexibilité dans la durée et le taux d'intérêt, il existe des calculateurs simples. Certains diront que les économies de bout de chandelle ne pèsent pas lourd dans la balance face aux grosses dépenses, qu'elles ne doivent pas servir à se donner bonne conscience quand on a un prêt au taux de 850 $ par mois. C'est vrai, mais les petits gestes ont le mérite de faire travailler quotidiennement notre muscle de la résistance à la surconsommation. C'était « Faire des piastres avec des scènes », un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 16 novembre 2024 dans La Presse.